Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, j'ai ma braguette ouverte, personne ne me dit rien, ok.
En même temps, la radio, ça se voit pas. Hein.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Salut à tous et bienvenue sur Séances Radio. On est très très heureux de vous retrouver les amis pour une saison 2 de Fin de Séance, votre podcast ciné qui débriefe les films à l'affiche avec un verre à la main et le micro dans l'autre. Nous sommes toujours au
Hurling Pub.
Bien joué les amis, vous les avez entendus à côté de moi, mes petits camarades. Vous les connaissez bien désormais, ils m'ont manqué, ils ont pris un petit peu de poids cet été, mais ils sont là en pleine forme. Pierre Delors de funfootage.fr.
Et oui, toujours là, fidèle au poste avec un petit rhume. Alors, il faudra m'excuser si je toussote ou je renifle un petit peu.
On est fin septembre les amis. Attention. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr sont également là.
Hello.
Ça va les copains?
Toujours.
Bon, très bien. Aujourd'hui, pour cet épisode 1, saison 2, nous vous proposons une spéciale Made in France ou French Touch. C'est au choix car nous allons nous pencher sur deux très très gros morceaux du cinéma qui risquent bien de susciter le débat. Vous allez entendre Climax de Gaspard Noé et les Frères Sisters de Jacques Audiard. Ça vous dit?
C'est parti. Toujours.
Allez, c'est parti.
Bon. Cette mission, c'est quoi?
Et c'est une nouveauté, et on en est très content d'ailleurs, puisque désormais, avant que l'on échange autour des films, nous allons écouter vos avis à chaud, hein, que l'on a recueillis en sortie de salle avec notre petit micro, n'est-ce pas Pierre?
Oui, en mission spéciale, on est allé à la rencontre des vrais gens.
Ben oui, des vrais gens, parce que votre avis est très important.
Exactement.
Et ça va nous aider à argumenter autour après. Et donc je vous propose qu'on attaque avec Climax. C'est parti, attention les oreilles.
Alors Gaspard Noé, la honte du cinéma français. Climax, les anges de la télé-réalité sous LSD. Quelqu'un d'intéressant qui disait récemment que le cinéma c'était censé montrer ce qu'on voyait pas dans la vraie vie. Là, il nous montre tout ce qu'il y a de dégueulasse qu'on connaît dans la vraie vie. Moi, j'ai envie de voir autre chose quand je vais au cinéma.
Alors, moi, je voulais dire que effectivement, c'est assez décevant. Enfin, en tout cas, c'est un film moralisateur sur les drogues, finalement, assez anti-drogue, alors que c'est ça qui fait un peu putassier. Voilà.
C'est ultra violent, quoi. Enfin, moi, je trouve. Enfin, il se passe rien. Enfin, visuellement, c'est pas non plus. À l'image, il nous met rien, mais bon, prend quand même bien cher.
Moi, j'ai pas été aussi choqué que pendant Irréversible ou Love. Enfin, peut-être parce que justement, je les avais vus avant. Je pense que si c'était mon premier film de Gaspard Noé, j'aurais peut-être été un peu plus choqué. Mais ouais, c'est quand même un gros morceau.
Monsieur Noé, s'il vous plaît, arrêtez de faire du cinéma.
Monsieur Noé, s'il vous plaît, arrêtez de faire du cinéma. Si c'est pas lapidaire comme réaction, ça, les copains, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on souscrit à ce que Sabrina a dit ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh bah non.
Pourquoi?
Bah non, mais
Julien, vas-y.
Le cinéma français est tellement stérile, sans prise de risque, sans audace, sans cinéma, qu'on peut pas rejeter une proposition comme ça. Même si, je comprends tout à fait qu'on rejette en bloc le cinéma de Gaspard Noé, parce qu'il est fait pour ça. C'est pensé pour. Le film a été vu à Cannes et il a bien embêté Gaspard Noé parce que finalement le film pour la première fois de sa carrière est bien reçu, ouais, avec bienveillance et apprécié, et lui-même ne sait pas comment réagir à ça, donc c'est tout à fait normal d'avoir une réaction épidermique. Mais pour moi, de dire cette personne-là n'a pas le droit de faire du cinéma, c'est non, c'est un grand non. Il faut qu'il y ait des, même si c'est un sale gosse, il faut qu'il y ait des personnalités comme ça pour un peu dynamiser un cinéma français qui est en pleine décomposition.
Pour nous faire chier, pour un peu déstabiliser l'expérience.
Tout à fait, c'est un film qui est pensé pour ne rebuter le spectateur, pour casser ses habitudes. On a un générique de fin qui apparaît dès le début, on a le générique de début qui apparaît à la moitié du film. Tout est cassé, il n'y a aucune logique. Enfin, aucune logique. Je veux dire, tout est fait pour casser les habitudes du spectateur et le malmener. Donc, a priori, il a réussi pour certaines personnes.
Bah, il prend personne en traître, on va dire, hein, dans tous les cas. Quand on va voir un film de Gaspard Noé, a priori, on sait à quoi s'attendre.
Oui, c'est sa marque de fabrique.
Ouais, Ilan.
Pour parler du film, alors tout d'abord, je vais rebondir sur une chose qu'avait dite Julien, mais qui n'était pas dans le podcast. À la sortie du film, il m'avait envoyé un texto en disant à croire climax, Gaspard Noé a assisté à tes soirées Pinard Nanar. Donc, je voudrais rétablir une justice. Gaspard Noé n'a jamais assisté à mes soirées Pinard Nanar.
Ah,
voilà. Ça, c'est dit. Voilà.
Qui valent le détour.
Exactement. Mais oui, donc pour revenir sur Gaspard Noé, oui, c'est un poil à gratter du cinéma français dont on a besoin, qu'on adhère ou pas à son cinéma. Et c'est très bien aussi qu'on n'y adhère pas, parce que c'est fait pour ça. Un cinéma qui est trop consensuel, c'est un cinéma qui est chiant. Et donc on peut, au moins, Gaspard Noé a ce mérite de ne pas être consensuel et de provoquer le débat. C'est une des choses que j'aime chez lui. Concernant Climax, il faudrait peut-être remettre un peu le film dans le contexte. Le film était né d'une envie de Gaspard Noé de faire un documentaire sur des danseurs de voguing. Il avait assisté à une soirée, il avait vu ces danseurs extraordinaires faire ces danses incroyables. J'allais dire se dandiner, mais c'est un peu trop péjoratif. Et il avait voulu faire un documentaire là-dessus. Il avait appelé Esquad, son producteur, qui lui a dit « Ok, banco, fais un documentaire là-dessus ». Mais quand on voit le film, on se rend compte que le projet a évolué, parce que je pense que plus que de filmer ses corps, Gaspard Noé s'est surtout posé la question de les mettre en scène. Le film est sur ça. Le film répond à cette problématique qui est comment mettre en scène des corps comme ça, comment filmer plutôt des corps comme ça, en les mettant en scène dans un contexte particulier, en mettant dos à dos deux types de chorégraphie, qui est la chorégraphie de ses danseurs et la chorégraphie de la caméra de Gaspard Noé, qui forme, on va dire, un ensemble assez harmonieux, parce que quand on voit le premier plan séquence, qui est absolument incroyable, on se dit que ces deux arts-là étaient faits pour se rencontrer. On voit cette véritable fascination qu'a Gaspard Noé pour ses danseurs, la manière dont il a envie de filmer des corps en mouvement, comment il se déplace dans l'espace, parce que tout le film est sur ça, en fait. Tout le film sont des corps en mouvement, même quand ces gens-là ne dansent pas, il y a un rythme. Et ça qui est assez incroyable dans ce film. Même dans leurs paroles, il y a un flow qui est assez incroyable. Donc rien que pour son audace visuelle, plus que pour son côté sale gosse, provocateur, je trouve que c'est un film qui est très intéressant. En termes de mise en scène, en termes de questions scéniques qu'il pose, je trouve que le film est très très bon et véritablement voir. C'est une expérience qui est peut-être beaucoup moins douloureuse, dans tous les sens du terme, qu'un irréversible.
Oh bah t'as vu, hein, dans le micro-trottoir là, enfin dans les avis qu'on a recueillis, il y en a...
Ah oui, non mais je pense que ce sont peut-être des gens qui n'ont pas vécu du irréversible en salle, parce qu'irréversible en salle, c'est une expérience viscérale, encore plus que peut l'être Climax, et c'est une expérience très éprouvante. Climax, c'est pas un film que je trouve éprouvant, alors peut-être parce que j'ai vu d'autres Gaspard Noé en salle qui m'ont beaucoup plus bousculé, qui m'ont beaucoup plus sorti de ma zone de confort, mais Climax, je trouve que c'est le film le plus accessible, entre guillemets, de
Gaspard Noé. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi, hein. Mais hey, on parlait des corps en mouvement, etc. Il y a quand même une histoire dans ce film. Est-ce que quelqu'un peut la pitcher ?
Oui, alors très bien, je me lance. Alors du coup, le film se déroule, c'est un huis clos, le film se déroule dans un gymnase, qui est une salle de répétition pour une troupe de danseurs qui ont été engagés pour un spectacle un petit peu mystérieux, sur lequel d'ailleurs le film ne s'attarde pas trop. C'est une répétition, ils font une dernière soirée, et donc ils boivent, ils picolent pas mal, ils boivent cette fameuse sangria qu'on voit dans la bande-annonce. Et ce qui se passe, comme tout film de Gaspard Noé, c'est qu'à un moment,
le drame
commence et le film bascule dans le cauchemar total. Et en fait, c'est d'ailleurs, je vais remercier tous ceux qui ont témoigné pour le film à la sortie de la salle, et notamment Sabrina pour avoir été aussi honnête et passionnée dans son témoignage. Et en fait, elle disait, le cinéma c'est fait pour nous faire rêver. Et d'ailleurs, on peut mettre ça en parallèle avec le film, qui est vraiment un film c'est un film cauchemardesque total. Et c'est ce qui se passe est absolument effroyable. C'est vraiment d'une cruauté terrible. Moi, alors, je vais être très honnête, j'ai trouvé que le film Au début, j'ai eu beaucoup mal à l'appréhender. Je trouvais qu'il y avait une vraie formule, une formule Gaspard Noé. Si vous voulez, des fois, il y a des vidéos YouTube sur Internet qui sont assez marrantes, où des mecs s'amusent à faire des fausses bandes annonces à la manière de. Et si Wes Anderson avait tourné X-Men, et si Stanley Kubrick avait fait, je sais pas quoi, Batman. Et du coup, ils reprennent tous leurs gimmicks de mise en scène. Et évidemment, bah, on reconnaît le style grosso modo stéréotypé du réalisateur.
Tu veux dire, tu parles par exemple des cartons qu'il y a avec les notes d'attention, les phrases.
Et donc du coup, voilà. si on me disait qu'est-ce que ça ferait un film, une histoire à la Gaspard Noé, eh bien il y a tout un type d'éléments comme ça auxquels on pourrait s'attendre et qu'on remettrait dans une fausse bande-annonce qu'on réaliserait. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas été surpris parce que j'ai revu la même typographie que par exemple dans son générique que pour Enter the Void, la même manière de traiter le générique, de le déconstruire. C'est cette déstructuration, ça se dit, c'est un vrai mot ça.
Déstructuration
du générique à différents moments du film. Donc, et tout le début d'ailleurs, je l'ai trouvé assez mécanique. Si vous voulez, le film se déroule dans une espèce de long plan séquence avec quelques cuts et quelques raccords artificiels. Mais j'ai trouvé, on voyait vraiment les acteurs qui sont d'ailleurs des acteurs semi-professionnels comme souvent, qui respectaient, si vous voulez, un petit peu trop leur marque. On voyait vraiment les mécaniques du film se mettre en place. J'ai trouvé les codes Gaspard Noé auxquels je m'attendais. Et toute cette première partie, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le film. Surtout que je trouve que le film ne cache pas vraiment ses intentions, c'est-à-dire qu'il commence par une interview des différents protagonistes
pour qu'on s'attache à eux,
ce qui est d'ailleurs très intéressant, hein. Ils sont à ce moment-là très naturels, mais
pour qu'on commence à voir qu'il y a Anguille Souroche quand même. On sent qu'il va y avoir un problème en les entendant en interview. Oui.
Et ces différents protagonistes sont mis en scène à travers un petit écran qui est entouré par des cassettes VHS, des DVD et des romans. Et si on lit les titres des cassettes et des romans qui sont vraiment au premier plan, quoi, ils citent énormément de références. Notamment Suspiria, notamment Buñuel. Et donc toutes ces références du cinéma surréaliste, du cinéma du cauchemar, du cinéma de l'enfermement, elles sont citées dès le début. Et je me suis dit, bon bah d'accord, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Et la référence à Suspiria par exemple est assez présente, notamment dans le jeu des couleurs. On passe devant un paysage de forêt imprimé sur un mur et soudainement l'image devient verte. Et d'ailleurs on est dans un espèce d'hôtel finalement, parce qu'ils ont des chambres, etc. comme dans Suspiria. Donc à tout ce niveau, je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai vraiment pas été surpris. Et c'est seulement à partir du moment où le drame commence, où ça part en sucette totale, que là, ah, ça y est, le film a pris au trip.
Oui, mais regarde, le film s'appelle Climax, donc la note d'intention, elle est claire dès le départ, c'est-à-dire qu'il joue justement sur l'attente du spectateur pour pouvoir faire progressivement monter en crescendo, et jusqu'à effectivement les 45 premières minutes, où là, effectivement, ça bascule.
Mais t'as pas trouvé ça dommage ?
Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est, j'ai pas trouvé ça dommage, parce que d'une certaine manière, je me suis attaché au personnage, j'ai trouvé ça un poil long, effectivement, et c'est en ça où je rejoins Ilan qui disait que c'était sans doute son film le plus accessible, parce que il y a ces personnages là qui ont des envies particulières, ils ont envie de bien faire pour leur métier, pour la troupe, etc. Mais c'est des personnages auxquels je me suis attaché, mine de rien.
Ils sont bien, ils ont tous des personnalités intéressantes, différentes les unes des autres. Il y a Sofia Boutella qui est une actrice professionnelle et qui est vraiment très 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 très, très forte dedans, et je trouve qu'elle livre à un moment une performance assez mémorable.
C'est l'actrice très physique, hein.
Ouais. Et qui danse extrêmement bien. Les autres, de temps en temps, on sent qu'on n'est pas avec des acteurs professionnels. Parfois, ça pêche un peu, mais grosso modo, ça marche bien. Je pense qu'ils ont été très bien encadrés. Il y a eu aussi, à mon avis, beaucoup d'improvisation. Enfin, je crois.
Ça sent.
Mais je sais pas.
Il l'a dit, Gaspard Noé. Il a dit les interviews face caméra. Il les laissait parler.
Ouais, et puis, ça se voit.
Il retenait ce qu'il y avait de meilleur. Il n'y avait pas de dialogue écrit.
Alors moi j'ai vraiment dire sur ce que tu disais, Pierre, sur le fait que tu n'avais pas été surpris. Moi j'ai été surpris à plusieurs égards, parce que quand tu vois l'affiche et quand tu connais un peu Gaspard Noé, moi je m'attendais à une espèce de d'ode à l'hédonisme qui allait virer au cauchemar, un truc très extrême, très sexué, et je me suis pas retrouvé du tout devant ça. Il y a aussi un autre mot que tu as utilisé qui est le mot performance, et c'est exactement ça qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu le film. Pour moi, j'ai l'impression de voir une performance artistique. artistique. Mais dans tous les sens du terme.
Complètement.
Une performance de la part de la part des acteurs, mais aussi une performance de la part de Gaspard Noé qui joue avec sa caméra comme eux jouent, jouent avec leur corps. Il a fait une espèce de film concept qui est assez fascinant et qui est très bien soigné d'ailleurs par, par, par la photo à la fois baroque et très travaillée de Benoît Déby qui s'amuse comme un petit fou.
Et la technique, juste je te coupe une seconde, la technique pure, hein, parce que sa caméra, moi ouais, je trouve ça absolument bluffant, rien que pour la performance technique.
D'une liberté,
mais à tel point que je rêve de voir le making-of, parce que j'aimerais comprendre parfois comment il a fait. C'est vraiment impressionnant.
Moi je me suis dit, ouais. Excuse-moi, je te coupe, moi quand j'ai vu le film, je me suis dit, putain, ça serait dingue ce qu'arrivera à faire Gaspard Noé avec le cinéma virtuel.
Exactement.
Mais je pense que ça ne l'intéresse absolument pas. Mais je me dis, si ce mec s'y intéressait, je pense qu'on aurait vraiment un résultat de dingue.
Alors, il s'y intéresse, mais pour l'instant, il trouve que c'est pas assez au point, que ça pixelise un peu trop au niveau des images. C'est pour ça que pour l'instant, il s'intéresse pas. Il veut pas faire de réalité virtuelle. Mais je pense que c'est quelque chose qui intéresse, parce que comme tu dis, quand tu vois le film, tu dis c'est impossible que ça l'ait pas titillé à un moment donné.
Et est-ce qu'on peut peut-être ajouter sur ce film, c'est que ces personnages enfermés les uns les autres, ce trip qui vire au cauchemar, selon moi, je sais pas. Le film est vraiment libre à l'interprétation, hein, il explique pas vraiment son propos, et d'ailleurs c'est une qualité, mais on voit comme une espèce de microcosme de la société, un élément déclencheur, les uns et les autres qui s'entre-dévorent.
Ah, mais pour moi ça parle clairement du chaos lié à l'humanité en fait, qui se veut créer quelque chose de beau. Donc par exemple ce numéro de danse qui est absolument dingue au départ, moi qui m'a fait complètement entrer dans le film dès le départ, donc ce qui fait que malgré la trajectoire du film qui est très claire et que on anticipe dès le début, fait que j'étais rentré complètement dans le film. Et donc cette humanité qui veut créer des choses, des choses magnifiques, et qui finalement ne fait que échouer parce qu'ils sont humains, ils ont de l'avidité, il y a de la jalousie, il y a de la cupidité, enfin tout ce genre de choses qui vont transparaître et amener à ce gâchis total qui est
une troupe de danse, hein,
qui est les agissements de cette troupe de danse, et qui aboutit à la destruction et à la mort et à tout ce qu'on veut, quoi.
Par contre, voilà, il y a cette espèce de mystère qu'il installe dès le début du film sur ce fameux, parce qu'il
fameux
dit
sangria.
Cette troupe, non il dit cette troupe c'est très bizarre, on nous parle tout le temps de Dieu, on est face à un drapeau, je comprends pas ce drapeau, qu'est-ce que c'est que ce drapeau, on t'en parle 5 minutes, tous les personnages sont choqués, et puis soudainement on abandonne ça et on le saura jamais.
Le drapeau français, précisons.
Mais on sait pas.
Ouais. Si on le voit derrière le DJ,
c'est référence à Dieu, etc. Alors on peut se dire qu'à ce moment-là il poursuit son propos, parce que c'est une troupe de danse très multiculturel, différentes origines, différents milieux sociaux, différents pays même. Donc il y a probablement un commentaire de sa part, mais voilà.
Mais est-ce que vous pensez justement que, comme le disait Guillaume dans le micro qu'on a entendu, est-ce que c'est un film moralisateur sur les drogues? Est-ce que c'est un peu putassier?
Moi je trouve que c'est vraiment limiter le film, parce que alors, quand j'ai vu le film, en fait, j'avais l'idée de rapprocher le cinéma de Gaspard Noé à celui de Darren Aronofsky, et notamment avec Requiem for a Dream, qui est un film culte, enfin adulé par beaucoup de gens, mais beaucoup détesté par d'autres. Et moi, l'argument qui revient souvent pour me casser le film, c'est Requiem for a Dream, c'est bon, la drogue c'est mal, ça va quoi, c'est un peu con quoi. Mais je trouve que c'est pas du tout ça pour Requiem for a Dream, et pour Climax, c'est juste un argument en fait, la drogue. Je pense vraiment que le propos, de toute façon, le cinéma de Gaspard Noé va toujours vraiment au-delà des thématiques, vont au-delà du contexte du film à chaque fois.
Mais c'est ça,
les ambitions sont vraiment beaucoup plus poussées que le contexte qui peut paraître un peu trivial, un peu voilà, ce genre de choses.
Ok.
Le
mot de la fin pour Ilan.
Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Julien dessus. Surtout qu'aussi chez Gaspard Noé, effectivement, tout dépasse le pitch même, parce qu'il y a un côté de toute façon toujours plus aérien, ne serait-ce que par la caméra, et même spirituel, quelque chose qui transcende le simple pitch, pitch de départ.
Sa caméra est toujours souvent à point vue.
C'est pour ça que c'est très étonnant, effectivement, que dans la première partie, elle soit fixe, qu'elle soit.
Mais alors là, ce qui pourrait ce qui pourrait faire que ce qui peut peut-être susciter ce genre de réaction sur le côté moralisateur, c'est peut-être effectivement les quelques cartons que met Gaspard Noé,
un film français, durant de l'air,
durant le film, comme
il n'y a pas de plus belle expérience que la mort,
voilà, la naissance est une chance, etc. Que t'as l'impression qu'en fait tu nies un étudiant de première année philo, un lycéen en première année de philo, quoi. Donc
et là ça fait dérapage, ouais.
Voilà, ça c'est un peu lourd, mais bon, c'est Gaspard Noé, il est pas connu pour sa subtilité, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
Partie des limites du film.
Bon, plutôt positif comme avis.
Oui, bon, faut savoir.
D'accord. Bon, tout à l'heure tu disais, Ilan, que la photo est signée Benoît Duby. Benoît Duby, qui est donc le directeur de la photo de longue date de Gaspard Noé, et qui est également le directeur de la photo des Frères Sisters de Jacques Audiard, dont on va parler tout de suite. 3 ans après sa palme d'or pour Dipan, le grand Jacques Audiard s'attaque au western avec les Frères Sisters. Grosse production réunissant Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed. On écoute vos avis, on en reparle juste après ça.
C'était pas mal, ça m'a rappelé un peu les westerns comme Appaloosa.
Non, moi j'ai bien aimé. Peut-être ce qui manquait, c'est un peu d'humour.
Excellent film.
Sinon, l'ensemble, la réalisation est parfaite, le jeu est superbe.
Oh ben, les westerns, c'est violent en général, ouais. C'est pour ça que je respecte les du western, évidemment c'est violent, la vie sauvage a été violente là-bas au 19e siècle et je vais vivement le conseiller, ouais.
J'ai trouvé ça génial, c'est super de voir Jacques Audiard qui arrive à gérer ce type de production à l'américaine tout en gardant sa propre identité, ce qui est rare. Je trouve qu'il arrive à conserver sa mise en scène, une certaine tension, un vrai amour pour ses personnages dans toute leur complexité. C'est vrai que là il y a quelque chose de plus proche de ce que Clint Eastwood a pu faire sur ses derniers film. Moi je trouve, voilà, qu'il y a une beauté dans cette arrivée progressive d'un autre âge que ces gens n'acceptent pas, et une sorte de boucle de violence perpétuelle qui est aussi caractéristique du cinéma d'Audiard. Donc c'est extrêmement cohérent avec tout son cinéma et en même temps très joli, très bien réalisé, bien mis en scène, bonne musique, enfin voilà, tout ce qu'on attend de lui, donc c'est super.
Bon, beaucoup de choses hein, dans ce petit micro, vous l'avez entendu, Appaloosa évoqué par Hugo, quelque chose de plus proche de ce que fait Eastwood sur ses derniers films, la boucle de violence perpétuelle qu'évoque Antoine à l'instant. Mais est-ce que vous souscrivez à tout ce que vous avez entendu, les copains, ou pas?
Bah oui, quasiment à tout. Alors
les Frères Sisters, Jacques Audiard, ouais, qu'en as-tu pensé? Bon,
Appaloosa, oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai qu'il y a ce même ce même rapport un peu contemplatif, intimiste plutôt au western, pourquoi pas, et même démystifiant le western. Mais ce qui m'a surtout interpellé dans les Frères Sisters, outre toutes les références qu'on peut y trouver effectivement à Appaloosa de Ed Harris, au film de Eastwood, à tous ces westerns, voire même peut-être à Hostile
plus récemment, ouais, de Scott Cooper, dont on a parlé
effectivement, hein. plus récemment. Au-delà de tout ça, je trouve que ce qui est intéressant dans le film, c'est que Audiard a repris un genre, s'est réapproprié un genre comme il l'avait fait avant, et y a injecté toutes ses obsessions, dont celle du besoin de s'affranchir ou non de la figure paternelle qui est toujours écrasante et qui là est vue sous le prisme de l'hérédité, cette violence héréditaire qui se transmettrait entre
Joaquin Phoenix et John C. Reilly,
voilà, qui ont eu un père très violent et qui questionnent leur violence par le prisme du père, mais aussi on y voit aussi Jacques Audiard questionner son propre rapport à la violence par des scènes soit assez crues, soit hors champ. On sent qu'il n'est pas forcément très à l'aise avec, mais justement c'est ça qui est intéressant dans les frères Sisters.
Avec les scènes de violence, c'est-à-dire que t'as pas l'impression qu'Audiard soit très à l'aise?
J'ai pas l'impression qu'il soit très à l'aise avec la violence de manière générale, mais ça c'est quelque chose qu'il dit de toute façon, qu'il n'est pas très à l'aise avec la violence de manière générale. Et alors, dans un genre comme le western, qu'on peut définir à tort peut-être comme un genre violent par essence du fait du contexte dans lequel il s'inscrit, qui est l'ouest sauvage, effectivement je pense que c'est aussi une manière pour Audiard de se pousser dans ses derniers retranchements et de voir de quoi il est capable et comment il peut reprendre à lui un mythe et en faire sien.
Mais t'as bien aimé?
Ah, moi j'ai beaucoup aimé les Frères Sisters. Voilà, c'était la question, c'était ce que j'ai bien aimé. Oui, j'ai très bien aimé. Au-delà de l'analyse et tout ça, oui, la réponse est oui, monsieur, j'ai beaucoup aimé les Frères Sisters. Julien?
Non, moi aussi j'ai beaucoup apprécié le film et je le rapproche avec Appaloosa de Ed Harris dans la mesure en fait où le film casse un peu les codes mais de manière un peu gentille, de manière un peu légère, sans, par exemple, on a ces deux frères sisters qui sont des hommes de main
Commodore.
À la salle du Commodore
incarné par
Rutger Hauer
qui est
la silhouette
dire, de Rutger Hauer
il est là 1 minute 30,
c'est dommage,
ça c'est quand même abusé,
il a loupé, ouais.
Et donc ces deux tueurs à gages en quelque sorte et qui ont par exemple un langage très sophistiqué alors que généralement le code du western est des mecs un peu bourrus qui s'expriment qui sont des taiseux, ce genre de choses, et là les mecs ont un langage un peu précieux, il y a un peu tout ça et donc ça casse pas complètement le genre, c'est pas non plus je sais pas moi l'assassinat de Jesse James, ce genre de choses, mais voilà ça prend le genre un peu de biais, tu vois, ça décale un peu le regard qu'on peut avoir sur le western et ça montre un peu on voit qu'est-ce que ça donne en fait.
Ça veut dire que ce que tu essayes de dire c'est qu'il y a la finesse et la mélancolie qui caractérise le cinéma d'Audiard aussi, l'attachement réel à ses personnages
aussi, mais le film déjoue un peu les attentes qu'on peut avoir en termes par exemple des gunfights qui sont soit en hors champ, soit vus de loin ou ellipsés, donc d'où cette violence qui est toujours un peu jamais frontale mais qui ne se cache jamais vraiment non plus, hein, c'est, je veux dire, quand on abat quelqu'un ça montre la réalité de, je sais pas, la probable réalité que c'était à l'époque, c'est à dire on prend pas dedans, quoi, c'est il y a un homme à terre, on l'abat, bam, quoi, c'est, il est mort, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de enfin voilà, c'est pas le cinéma d'action du western spaghetti ou autre, voilà, donc voilà, c'est, j'aime bien ce regard de biais en fait du genre, voir qu'est-ce que ça donne si on décale un peu les lignes.
Ok, Pierre.
Bon, alors moi, exactement comme mes petits camarades, hein, j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé Les Frères Sisters. Je trouvais que c'était vraiment un très beau film, un film très sensible. Il y avait quelque chose qui m'intéressait vraiment en allant voir le film, c'est sachant que c'était un western qui était réalisé par un Français et que traditionnellement c'est un genre purement américain, purement hollywoodien, même si on peut le rappeler, hein, dans les années 1910, la France faisait du western, hein, en Camargue, ce qu'on appelle le western camembert. C'est très peu connu, mais voilà.
Alors là,
en odorama,
pas en odorama, mais c'était le surnom, le western camembert. En Camargue, on faisait ça en 1910. Ouais, et les Américains étaient un peu jaloux parce qu'on avait des paysages magnifiques, des chevaux sauvages. Il y a ce fameux film, comment il s'appelait déjà, il se faisait surnommer Joe Hanan ou Haman. Il a monté ça en France et à un moment, il voulait avoir des figurants pour jouer des Indiens. Et il a trouvé des étudiants japonais qui étaient de passage en France et il leur a fait jouer des Indiens. Non, c'est une vraie curiosité, faut s'y intéresser. Il y a un collectif français qui s'appelle Western, mais avec une écriture francisée, OU, Western, qui essaie de mettre en avant ce cinéma et de retourner des films dans ces paysages camarguais. Enfin bref,
tu vois,
petite parenthèse.
Non, pour ajouter un petit truc à parenthèse, il y a une grande star, un acteur français qui a été une grande star du Western, qui est Pierre Brice. Je ne sais plus si c'est Pierre. C'est Pierre Brice qui a joué les Indiens pour le cinéma allemand, Winnie Two, et qui était une énorme star en Allemagne, encore plus populaire que Alain Delon, un contemporain. Et en termes de cinéma français, on n'est pas des grands absents du western.
Non, mais
il y a une certaine histoire.
Alain Delon a joué Zorro, ne l'oublions jamais. Non, mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment un Européen et un Français pouvaient traiter le western. Parce qu'on sait que les Italiens sont rentrés avec fracas dans le western. Ils ont bouleversé seulement le western, mais le cinéma. Particulièrement bien sûr avec Sergio Leone.
La trilogie du
Et là, je me disais, Jacques Audiard, qu'est-ce qu'il peut amener? Parce que souvent la position, c'est soit je vais essayer de jouer le malin et de déstructurer le western et d'amener une composante presque plus intellectuelle d'Européens, etc. Soit on est dans la déférence totale et je n'ose pas et je respecte les codes stricto sensu et j'arrive pas à m'en détacher et finalement ça n'a pas un grand intérêt. Et là, je trouve que Jacques Audiard, il a amené une vraie personnalité. Et pendant tout le film, je le cherchais, ce regard de français. Je me disais, mais où il est? Et moi, je l'ai trouvé dans les paysages. J'ai trouvé qu'il y avait une admiration dans les paysages, qui sont d'ailleurs... La photo du film est absolument magnifique. Je trouve que le travail sur les éclairages est bouleversant, extrêmement sensible. Il y a d'ailleurs une scène de fusillade en pleine nuit.
Donc là, tu dis que Benoît Deby fait un meilleur travail sur les Frères Sisters que sur Climax.
Mais sur Climax, ça a dû être difficile. Hein, avec le positionnement de caméra, je ne sais pas où il a mis ses lumières. Mais il y a voilà, des très 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 belles scènes et on sent qu'il s'attarde et je pense qu'il a été émerveillé par certains paysages, notamment des paysages de montagne et des paysages de forêt. Moi j'ai trouvé ça très beau, un paysage de plage aussi, c'est des choses qu'on voit pas si souvent et parfois je trouve que le western américain ne traite pas ses paysages avec autant de poésie. C'est quelque chose qui, bah, auquel ils sont habitués et le français qui arrive en territoire américain, forcément il se prend ça en pleine face et c'est...
Bah, je suis pas tellement d'accord avec toi.
Moi j'ai vu ça, j'ai trouvé qu'il y avait une admiration pour ces paysages qui ne te met pas ça dans la tronche, hein. Ça reste discret,
c'est subtil,
ouais. Mais je l'ai vu là, c'est subtil et de toute façon le cinéma de Jacques Audiard est
bien
subtil.
Sûr, mais tu vois la discrétion dont tu parles sur les paysages qui ont une réelle importance dans ce genre là à mon sens, moi je pense surtout que j'ai un problème avec ce film parce que je lui reconnais de très très grandes qualités. Je trouve que c'est un très très beau film,
un peu long,
qu'il est porté par de très grands personnages, mais j'ai trouvé ça assez long. La première partie, j'ai trouvé assez scolaire. Je trouve que c'est ce que je t'ai dit à la sortie.
J'allais y venir.
Que n'importe quel autre réalisateur un peu talentueux qui sait manier une caméra aurait pu faire la même chose, en fait, je trouve.
Voilà, j'allais y venir, mais bien sûr, on m'a coupé. Mais oui. Et voilà, ça se passe comme ça, la saison 2, ça commence mal.
Tu vois, je finis tes phrases, tu termines.
Non, mais c'est parce qu'on est copains, on se connaît.
C'est beau.
Et du coup, effectivement, voilà, cette première partie, je l'ai trouvée un peu scolaire. C'est très beau, la musique d'Alexandre Desplat fonctionne très bien. Par contre, voilà, sur le coup, au début, j'ai pas senti la patte vraiment de Jacques Audiard. J'ai pas senti le regard différent d'un réalisateur qui viendrait explorer ce nouveau genre, pour lui en tout cas.
Il n'y a pas tellement d'enjeux forts qui se dessinent aussi au début.
Et je tenais, mon attention tenait grâce à ces personnages. Joaquin Phoenix et John Cirelli sont formidables. Je trouve que Riz Ahmed est toujours très bien, c'est vraiment un bon acteur. Malheureusement, Rutger Hauer, quand on l'aperçoit à la fenêtre, je me suis dit, oh, génial, il est là. Et puis en fait, il est là 1 minute 30. Et Jake Gyllenhaal, qui moi m'a vraiment impressionné. Ah ouais. Je trouve qu'il est,
ah oui, il est
magnifique.
Excellent.
Mais il est même très beau avec sa moustache, son air, il prend un parler de l'époque un peu distingué, il joue un détective privé, je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Je pense que c'est le personnage que je retiens le plus du film.
On a un beau quatuor d'acteurs auquel on n'aurait pas forcément pensé et je trouve que c'est vraiment une grande force du film et
les acteurs
et
sont top.
Bravo à Jacques Audiard pour son casting.
Il n'y a que lui qui peut faire ça, on dirait. Justement.
Et au fur et à mesure, cette sensibilité, cette humanité, cet attachement au personnage et cet attachement, j'ai presque envie de dire, sans vouloir rentrer dans la lutte des classes, mais cet attachement presque prolétaire à ces personnages, c'est-à-dire que ces tueurs, c'est pas des espèces de desperados du western, des figures un peu mythiques, c'est des mecs, il va leur trouver un quotidien, on les voit dans leurs petits problèmes de tous les jours, on les voit apprendre à se brosser les dents.
Leur fraternité aussi, elle est touchante. Hein.
Là, c'est une fratrie qui est très touchante, oui. Et ça, c'est pas si courant.
Oui, c'est vrai. Vas-y, Ilan.
Rebondir sur...
Vas-y, Ilan.
Sur deux choses qu'a dit Pierre, qui est le rapport à la nature que entretient Jacques Audiard dans le film. Il y a un côté très minéral dans le film qui m'a beaucoup touché, effectivement. Il y a ce côté assez contemplatif sur la nature et très discret, mais tout dans le film est dans la discrétion, même dans la peinture des personnages, même dans la démythification, parce que c'est un film qui est aussi sur la démystification.
Quand tu dis minéral,
dis-moi.
C'est la pureté.
Enfin, oui, parce que tout à fait.
Minéral,
oui, non, je parle pas de
il y a des fleuves.
Mais voilà. Surtout pas Hurling. Mais voilà, il y a un côté extrêmement, extrêmement minéral, extrêmement pur, extrêmement discret. Toute cette discrétion, toute cette subtilité que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et en fait, les choses arrivent de manière très naturelle. Très, très naturelle. C'est quasiment instinctif. Et moi, je trouve qu'effectivement, Audiard, je l'ai trouvé tout de suite. J'ai retrouvé toutes ces obsessions, ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que si on devait donner un autre titre au film, ce serait Regarde les coltes tomber. Parce que pour moi, c'est du pur Audiard dans la lettre et dans l'image.
Okay. Après, pour revenir, alors je remercie encore une fois Antoine, je trouve qu'il a fait un très très beau témoignage et une très belle analyse.
Ouais, on devrait l'embaucher.
Non, mais qu'on a diffusé quasiment son intégralité. Effectivement, ces boucles de violence perpétuelle qu'on retrouve chez Audiard et qu'on retrouve dans le western, et c'est un genre de la violence, hein, hein. Par contre, alors je suis pas totalement d'accord avec lui sur les personnages qui refusent un nouvel âge et qui décident de rester dans un western qui peut-être est en train de disparaître.
Alors, les personnages sont arrivés à un bout de leur vie, c'est-à-dire de desperado, enfin d'homme de main, tout ça. Et on a le personnage de John C. Reilly quand même qui espère autre chose, qui attend autre chose de la vie, alors que le Joaquin Phoenix, lui, s'en contente très bien. Donc je suis d'accord.
Avec toi, tu vois, moi je l'ai pas pris sur un âge, sur deux âges qui sont en contradiction, la modernité et le western comme on a pu le connaître et
pas
qui
disparaît.
Pas
forcément la modernité, mais le, je veux dire que de comment dire, rapport à la sauvagerie qui ne mène à rien.
Et ben moi je l'ai pas vu.
Et espérer quelque chose d'autre.
Je l'ai pas vu du tout comme ça. Moi je l'ai pris d'un point de vue purement social. Et c'est-à-dire ces petits moments de modernité, c'est-à-dire quand il découvre les toilettes pour la première fois, l'eau courante, la brosse à dents. Je trouve que
c'est une très belle scène quand même.
C'est une très belle scène d'ailleurs, c'est très drôle. Moi j'y vois pas un commentaire sur la modernité. Moi j'ai vraiment pris ça de manière sociale. Et Joaquin Phoenix, cet attachement à la sauvagerie, etc. J'y ai vu un homme qui aspire à s'élever dans la hiérarchie sociale et la hiérarchie du crime, puisqu'il rêve d'une chose. Désolé, je spoil un tout petit peu. Si vous voulez pas de spoiler, vous pouvez zapper de quelques minutes. Il rêve de renverser le commodore qui l'a engagé. Il veut prendre sa place. Et il aime la richesse. Je le vois pas refuser la modernité. Il est très heureux de s'afficher avec un beau costume et un cigare. Et en fait, si tu veux, c'est un discours qu'on retrouve dans n'importe quel film de mafieux sur celui qui est la petite main qui part de rien et qui rêve de devenir le boss, le don de telle mafia. Et John C. Reilly, lui au contraire, c'est quelqu'un qui, dans son personnage, dans son attitude, n'aspire pas à... Il n'a pas une vision passéiste des choses, il aspire lui à une forme de simplicité, de retour aux sources, mais de retour aux sources familiales en fait.
Il est dans la rédemption quoi.
Il est dans la rédemption, il parle de leur mère, il parle de leur père, de ce qui s'est passé quand ils étaient enfants. On, à un moment, on a une scène de flashback. Pour moi, c'est ça. Il aspire à une vie plus simple, une vie plus naturelle. Ça le fait pas rêver, tout cet argent. Et d'ailleurs, il est dans ce milieu pour son frère, pour son amour familial. Donc moi, j'ai pas vu le commentaire d'une époque, enfin d'un monde qui change.
Non, et puis il faut dire que depuis Impitoyable, on va absolument donner au western cette espèce d'identité crépusculaire sur le temps qui passe, le refus de passer à un autre âge, etc. Je pense qu'il faut laisser à Eastwood, il faut laisser à César ce qu'il y a à César, donc à Eastwood ce qu'il y a à Eastwood, et à Audiard ce qu'il y a à Audiard, comme aux autres auteurs, ce qui a été le cas, par exemple, ouais, pour l'assassinat de
Jesse James.
De Jesse James, qui est un pur film de son auteur, d'Andrew Dominik, comme aussi qui est un pur film de son auteur, Scott Derrickson. Scott Cooper, pardon. Donc tout n'est pas archétypal, ouais, dans le western, même si on réutilise des figures imposées.
Après, tout est une question d'écriture, dans tous les cas.
Exactement.
Bon. Ok. Il y avait quelque chose que disait Jacques, pour terminer dans le micro qu'on a fait là, c'est que... Tout bêtement, il va vivement le conseiller. On le conseille, les amis ?
Oui, tout à fait.
On le conseille. Pierre, est-ce que tu conseilles les Frères Sisters ? Reviens par là.
Oui, désolé, je suis allé virer des gens qui voulaient s'installer à notre place pendant qu'on enregistre. Moi, je le conseille fortement. Effectivement, c'est un petit peu long. Il y a un petit moment, je trouvais le temps long, mais c'est un film qui est très beau, qui est très touchant. Et en fait, ne serait-ce que pour la scène finale qu'on ne va pas révéler, mais j'ai trouvé.
Super.
Moi, ça m'a tiré les larmes aux yeux. Je trouve que la scène finale est magnifique.
Le final est très, très beau.
Vraiment inattendu. Là, éventuellement, on peut trouver une originalité. Moi, je m'attendais. Enfin. Si, c'est très cohérent avec le film, mais dans le style du western, c'est pas si courant. Donc rien que pour ça, il faut aller le voir.
Et ben voilà, c'est en salle, allez-y. Oui, Julien, pour terminer.
On le conseille parce que le western n'est pas mort, monsieur.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur séanceradio.com, iTunes, SoundCloud et Spotify, les copains.
Wow. Ah,
ça progresse tout ça, Spotify, fin de séance. Très, très facile pour nous retrouver. Avant de vous quitter, on va faire quelques petits remerciements. On va faire un gros bisou à Hakim Mahadadi sur Twitter, qui est un fidèle parmi les fidèles, avec qui on échange pas mal.
Ouais, qui nous ont laissé des très gentils messages. Ça nous a fait vraiment plaisir, donc on les remercie du fond du cœur.
Cet été, il nous a classé dans son top 40 des podcasts à écouter. Ça a été repris. Il y a eu des petits
des petits retweets, des
petits c'est
likes,
pas rien hein, c'est hyper sympa,
ça fait, un homme de goût,
très plaisir, effectivement un homme de goût. On va remercier également Mathieu, autre auditeur fidèle sur Twitter
@onelisten, un de nos auditeurs fidèles à qui je fais un gros bisou.
Et on va remercier également Sabrina, Guillaume, Armand, Jules, Léo, Hugo, Frédéric, Jacques ou encore Antoine pour leur avis à chaud en sortie de salle.
Et tous ceux qu'on a dû couper, malheureusement, il y avait beaucoup de témoignages, on n'a pas pu tout garder, mais on vous remercie vraiment.
Ouais, très très gros bisous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, iTunes, les petites étoiles.
Oui, c'est vraiment important pour nous, laissez-nous des petits commentaires, partagez, faites-le circuler à tous vos potes, laissez des petites étoiles sur iTunes, ça peut vraiment nous aider.
On demande que ça, et
ouais, c'est pas des blagues.
Voilà, des petites étoiles, on échange également avec vous sur, sous les fichiers du podcast sur Twitter. Et je crois que c'est l'anniversaire de quelqu'un autour de la table aujourd'hui d'ailleurs.
Ah mais oui, mais qui donc?
Mais je ne sais pas, Julien?
Je sais pas, peut-être la personne qui est à ma gauche.
Bon anniversaire Ilan.
Merci.
Serait-ce Ilan Ferry qui a 18 ans
et toute 19.
Il est enfin majeur, il peut boire de la bière.
Ouais, c'est beau.
On te fait un très gros bisou Ilan.
Même à l'antenne, merci. Écoutez ça.
Oh là là, c'était beau, dans ce podcast.
Mon plus beau cadeau d'anniversaire.
Rendez-vous. Ça va dégénérer comme Clagma, enfin, je vous préviens.
Les amis, rendez-vous sur cinévibe.fr.
Tout à fait.
@fanfootage.fr également sur,
exactement.
Sur Twitter.
La discussion continue sur Twitter.
Fin de séance, notre compte Twitter, les amis. Fin de séance, hashtag fin de séance. Voilà, pour partager, vous le savez. On vous fait de très très gros bisous et on vous dit
à très vite.
À la semaine prochaine.
À la prochaine.
Bisous. Ciao. Bisous, bisous.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.